Alors effectivement, on continue dans l'épître aux Romains, comme Philippe l'a bien dit. Et la semaine dernière, on avait vu, à partir de Romains 8, 28, c'est un passage qui est tellement, tellement riche qu'il faut sans arrêt revenir un tout petit peu en arrière avant d'aller en avant, et qu'on pourrait même rester sur place pendant des dimanches et des dimanches, et toujours trouver d'autres choses. Je vais relire donc quand même à partir du verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Te demandons, Seigneur notre Dieu, que toute la puissance de ta vie, de tes pensées qui est contenue dans ces mots, viennent maintenant infuser notre être spirituel pour nous nourrir de toi, pour que nous puissions être réellement touchés par ces paroles, qu'elles soient une nourriture pour notre âme, qu'elles transforment nos vies, et que nous puissions un tout petit peu plus ce matin ensemble te voir, te comprendre, t'entendre, et que ça puisse avoir un impact dans nos vies, Seigneur Dieu. Amen. Donc la semaine dernière, on s'était arrêté surtout sur le verset 28, hein, Dieu qui fait travailler toutes choses ensemble pour que l'image de son Fils soit formée en nous. Le verset 29, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et je veux juste rappeler un tout petit peu ce point-là qu'on avait déjà vu la semaine dernière. On a un bel exemple ce matin, on a un bébé parmi nous. Super. Hein. Mais Caroline et Luigi ne peuvent pas déterminer ce qui va devenir. Ils peuvent simplement lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il devienne ce qu'il est déjà, entre guillemets, génétiquement programmé pour devenir. Ils ne peuvent pas changer la couleur de ses yeux, ils ne peuvent pas changer vraiment, si, un tout petit peu, mais sa taille en tant qu'adulte. Ce qu'il va être, bien sûr, ils vont l'éduquer, ils vont lui donner les meilleures conditions possibles pour qu'il devienne tout ce qu'il peut être, mais ce qu'il est réellement est déjà déterminé par sa génétique. Je ne parle pas de ce qu'il va faire, hein, ce n'est pas du prédéterminisme où on n'a pas le choix. Hein. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que ce verset 29 nous dit. Hein. Ce que Dieu connaissait d'avance comme allant recevoir, accepter Jésus-Christ, devenir ses enfants, il leur a donné à la nouvelle naissance un potentiel génétique spirituel issu de la vie de Christ. Et c'est pas à nous de le fabriquer, c'est simplement à nous de lui donner ce qui est nécessaire pour qu'il se développe dans les meilleures conditions. Tom va grandir dans de bonnes conditions. Il a des parents qui l'aiment, des parents qui s'aiment, qui vont lui donner tout ce qu'il pense être le meilleur. Personne n'est parfait en tant que parent, mais ils vont faire le mieux. Et il va atteindre la plénitude, le développement dans sa maturité de ce qu'il est. En tant qu'enfant de Dieu, c'est la même chose. Je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Mais je peux ou pas développer ce qui a été mis en moi. La semaine dernière, je disais, si Usain Bolt, en mettant de côté, j'avais déjà dit, les éventuelles substances non autorisées qu'il peut prendre ou pas, hein, mais si cet homme-là avait passé toute sa vie sur un canapé à manger des chips, en buvant du coca, en regardant la télé et en se nourrissant à McDonald's entre ça, ça serait pas le coureur qu'il est aujourd'hui. Il aurait toujours ce potentiel en lui, mais il se serait jamais développé. Hein. En même temps, si j'avais fait l'entraînement d'Usain Bolt, je serais jamais arrivé à faire ce qu'il a fait. J'ai pas ces capacités-là en moi. Hein. Et c'est pareil avec la vie de Dieu. Dieu a mis en nous sa vie, hein, sous forme d'une semence. Et puis, ce qu'il veut faire de nous en tant que personnes, chacune différente les unes des autres, avec la vie de Christ en nous, on doit simplement donner à cette vie tout ce qui est nécessaire pour qu'elle se développe. On va pas le fabriquer. Ça, c'était le verset 29. Mais c'est important de se rappeler ça. Parce que on voit dans les versets suivants, hein, il est dit au verset 30, ceux qu'il a ainsi destinés, donc c'est-à-dire tous ses enfants à qui il a mis dedans sa vie avec un potentiel génétique spirituel, il les a aussi appelés à lui. Et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît un petit peu compliqué ce verset, mais en fait, il dit une chose toute simple. C'est que ce que Dieu veut que nous devenions, il nous a donné les moyens pour y arriver, tout simplement. Il y a la provision nécessaire pour atteindre le but que Dieu nous a fixé. Contrairement à souvent les discours politiques, par exemple, où il y a des déclarations de bonnes intentions, quand les pays riches se retrouvent, par exemple, pour dire il faudrait faire quelque chose pour la faim dans le monde. Ils font une belle déclaration, chacun rentre chez soi, et les gens qui ont faim ont toujours faim. Ça change rien. C'est une tradition dans le monde politique. On fait des promesses. Je sais plus quel homme politique français disait, les promesses en politique n'engagent que ceux qui les croient. Je crois que c'est Charles Pasqua qui disait ça. Je suis pas certain, mais peu importe. Hein. Mais là, lorsque Dieu dit, je veux que vous soyez conformes à l'image de mon Fils, juste après, Paul dit, mais je vous ai donné ce qu'il faut pour ça. J'ai mis en vous ma vie. Génétiquement, il y a ce qu'il faut pour que nous devenions comme Christ. Ça sera accompli après cette vie, hein, mais on a commencé. Et puis, pour faire ça, eh ben, je vous ai appelé, et je vous ai aussi déclaré juste, et j'ai aussi partagé ma gloire avec vous. On a un très beau verset dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 3. Je vous le lis, qui dit ceci. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, nous rendre conformes à ce que Dieu est. Je prends un exemple tout simple pour qu'on comprenne, parce que ça peut paraître théorique, hein. Imaginez que vous êtes engagé par un paysan, puis qui vous dit, viens travailler chez moi. Et puis maintenant, je veux que tu ailles creuser un puits pour que j'aie de l'eau pour arroser mes légumes. C'est une illustration du sud de la France, bien sûr. Puisqu'ici, on n'arrose pas les légumes, on les protège de l'eau. Mais, hein. Si le paysan qui vous a embauché vous dit ça, et vous lui dites, mais avec quoi je creuse mon puits? Hop, ça, c'est ton problème, hein. Débrouille-toi. Bon, d'accord, mais je suis pas puisatier, comment je vais faire, hein? Maintenant, si il vous dit, voilà, je te donne ce travail à faire, voilà où sont les outils, voilà comment il faut procéder, voilà les ressources, voilà un technicien qui sait comment faire. Alors, j'ai toujours le travail à faire, Mais c'est pas pareil. Il y a ce qu'il faut pour le faire. Hein, c'est de ça que nous parle ce verset. Celui qui nous a appelés à devenir semblables à son Fils nous a aussi donné tout ce qu'il faut pour que ce soit possible. Il a mis en nous son esprit, il nous a communiqué sa pensée par sa parole, il a pourvu à des hommes et des femmes, des êtres humains avec qui on va être en relation pour s'aider les uns les autres, se défier, s'encourager. Il nous a donné la capacité de réfléchir, de méditer, de penser, de mettre les choses en action. Il nous a donné tout ce qu'il fallait et on pourrait dire d'une certaine façon même la capacité de prendre des décisions, même si c'est à nous de la prendre, c'est lui qui nous l'a donné. Donc tous les outils nécessaires, nous les avons. Ça ne veut pas dire que les choses se font seules, ça ne veut pas dire que les choses sont faciles, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas échouer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se tromper, mais ça veut dire que ce que Dieu veut faire en nous, il va le faire avec nous, et c'est possible que ça se fasse. Verset suivant, ensuite Paul continue et dit « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et moi, je sais pas vous, mais quand j'étais plus jeune chrétien, j'ai souvent entendu des gens prêcher sur ce verset en disant « Ouais, ben si Dieu est avec nous, personne ne sera contre nous. » Je pense que c'est le contraire que Paul dit ici. C'est une question rhétorique. Hein. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ben, si on avait répondu à cette question, Paul aurait dit « Presque tout le monde. » Presque tout le monde. Et la suite prouve que c'est bien de ça qu'il parle, hein, puisqu'il dit il va expliquer qui nous accusera et puis rien ne nous séparera, toutes ces choses-là. Hein. Paul en savait quelque chose. Hein. Qui n'était pas contre lui? Les Juifs étaient contre lui, les Romains étaient contre lui, certaines églises étaient contre... Tout le monde était contre lui. Le diable, surtout, était contre lui. Ses anciens amis étaient contre lui. Tout le monde était contre lui. Hein. Donc, lorsque Paul dit « Qui se lèvera contre nous ?» Oh, ben, c'est pas une façon de dire oh, « ben, si vous marchez avec Dieu, personne ne sera contre vous. » Parce que nous sommes un petit peu les exceptions dans nos pays, à notre époque, et encore, on peut avoir quelques difficultés. Mais la plupart des chrétiens sur la planète, même à l'heure actuelle, ont une vie difficile parce qu'ils sont croyants. La semaine dernière, il y avait une question après qu'on ait vu Romains 8, 28 sur l'évangile de prospérité. Très bonne question. Et on disait, dans beaucoup de situations, en devenant chrétien, votre vie va être plus compliquée. Dans beaucoup de pays, si vous devenez chrétien, vous allez peut-être être moins riche, dans un premier temps en tout cas. Parce que dans un pays corrompu, si vous devenez honnête, vous gagnez moins d'argent. Dans un pays musulman, si vous devenez chrétien, vous risquez de vous retrouver en prison ou de perdre vos possessions. Dans un pays, je sais pas la Suisse, mais on va dire comme d'autres pays en Europe de l'Ouest, si vous devenez chrétien... peut-être vos affaires vont être moins florissantes, parce que vous allez plus travailler au noir, parce que vous allez tout déclarer, parce que vous allez plus voler les gens. Donc, c'est pas plus facile. Mais dans beaucoup d'autres endroits, le fait d'être chrétien complique sérieusement les choses. Hein. Qui sera contre nous? Ben, probablement beaucoup de monde. Mais, et c'est là que toute la grandeur de ce passage arrive, hein. Dieu va être avec nous, mais on va voir de quelle façon. Et là encore, conscient que les actes parlent plus que les mots, Paul rappelle ce que Dieu a fait pour nous. Hein. Comment il répond à cette question? Ben, le verset suivant nous dit « Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ?» La façon que Paul a trouvé pour nous communiquer avec quelle puissance Dieu va nous accompagner dans les difficultés, c'est de nous rappeler la chose qui lui coûtait le plus, il l'a faite. Donc, on a une preuve concrète. Encore une fois, c'est pas un discours de politicien. Hein. Mes chers amis, préparons-nous et partez. Non, c'est Dieu est venu vers nous. Et puis, le prix le plus élevé, il l'a payé. Et maintenant, quand il nous dit « Je suis avec vous et je vous aime », tout le poids qu'il y a derrière, c'est le poids de quelqu'un qui a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous. Hein ? Ce n'est pas des mots, des promesses, on verra dans le siècle à venir. Non, il l'a déjà fait. Il l'a fait en premier. Il a fait le premier pas et puis il l'a montré concrètement. Et ça, c'est d'une certaine façon la plus grande garantie. On n'a pas besoin de garantie, mais la plus grande démonstration, parce quand même on est humain, on en a besoin, hein, du fait que Dieu ne va pas nous laisser tomber. À d'autres endroits, Paul explique, lorsque nous étions encore ses ennemis, quand nous étions encore dans le péché, quand nous étions ceux qui avions à la main les marteaux et le clou pour crucifier Jésus, à ce moment-là, Dieu nous a aimés. Maintenant que nous avons été pardonnés, appelés, rachetés, justifiés, à bien plus forte raison, il va être avec nous. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, Dieu avec nous, ça ne veut pas dire pas de difficultés, ça ne veut pas dire que la vie est facile, ça ne veut pas dire que tout va bien, ça veut dire qu'il va utiliser toutes ces difficultés, et les bonnes choses, parce qu'il y en a aussi, pour, à l'intérieur de nous, développer, faire grandir cette vie qu'il a mis en nous. Il y a une petite expression au travers de tout le passage qui va suivre, qui est très très importante, au verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Paul va citer tout ce qui pourrait essayer de nous séparer de l'amour de Dieu, et il va dire dans tout cela. Donc il dit pas l'amour de Dieu va nous éviter tout cela. Il dit « au milieu de tout cela ». Et la liste qu'il fait, ben, elle est quand même, elle est pas mal. Hein. Qu'est-ce qui pourrait nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Si on regarde ce qu'il y a derrière chacun de ces mots, ben, il n'y a pas grand-chose comme difficulté qui ne soit pas citée là-dedans. Hein. Tout y est, hein. Autant les difficultés intérieures que les difficultés extérieures. L'angoisse, ça c'est à l'intérieur de nous, la détresse, hein, et puis la faim, et puis l'épée, donc la persécution, les difficultés extérieures, toutes ces choses-là. Hein, et dans toutes ces choses, donc au milieu de l'angoisse, au milieu de la détresse, au milieu de la faim, peut-être pas mourir de faim, mais au milieu de la misère, du danger ou de l'épée, l'amour de Dieu sera avec nous. Ça, c'est la promesse que nous avons. Rien ne pourra se mettre entre l'amour de Dieu et nous. Paul Claudel, j'ai souvent utilisé cette citation, mais a résumé ça de façon magnifique, lorsqu'il a dit « Jésus n'est pas venu abolir la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence ». Et là, on a tout le résumé de la pensée de Paul dans ce passage-là. Jésus n'est pas venu abolir la souffrance, même pas l'expliquer, mais la partager déjà, la vivre à son maximum, et puis pour nous, comme conséquence, à cause de ce que lui a fait, la remplir de sa présence. Alors, c'est pas du tout un message, ben, soyez chrétien, puis tout ira bien, mais devenez enfant de Dieu, et rien ne pourra se mettre entre l'amour de Dieu et vous. Et on voit comment Paul, justement comme on l'a déjà dit, et puis vous le savez, vivait au milieu de difficultés quand même d'une catégorie assez élevée, on pourrait dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose qu'il ait pas vécu, lui aussi, comme épreuve et comme difficulté, autant morale que physique, au niveau de sa réputation, au niveau de sa santé, enfin, il est passé partout, hein. Mais on voit comment il est dans cette conviction absolue, indéboulonnable. C'est, quoi qu'il se passe, oui, je peux, bah, de toute façon, il y a perdu la vie, mais rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et c'est intéressant de voir que lorsque Paul reprend ces choses-là, encore une fois, pourtant on sait que Paul n'était pas un poète sentimental, hein, ou un moine contemplatif. Mais Paul ne dit pas dans ce passage-là, je sais que rien ne pourra me séparer de la sainteté de Dieu, ou que rien ne pourra me séparer de la justice de Dieu. C'est vrai, hein. Mais qu'est-ce qu'il met en avant? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a pas des caractéristiques de sa personne qui sont plus fortes que d'autres. Hein. Dieu est pas plus amour que justice ou que sainteté, etc. Il est ce qu'il est pleinement et absolument dans tout. Donc le point est pas là-dedans. Mais pour nous, en tant qu'être humain, ce dont nous avons besoin au milieu de ces choses-là, C'est pas juste de savoir que Dieu est juste, qu'il est saint, qu'il est parfait. Il l'est, c'est important. Mais c'est de savoir que rien ne pourra s'interposer entre lui et nous dans son amour. Et c'est ce que ce passage nous dit de façon absolument magnifique. Alors, c'est pas trop la peine de trop le commenter. Je voudrais juste le relire une fois pour conclure. Parce qu'il est tellement fort en lui-même. Je vais relire à partir du verset 32. « Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ? L'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que ce matin tu nous visites par une nouvelle compréhension de cet amour auquel rien ne peut nous arracher. De cet amour qui s'est démontré de façon concrète en nous offrant ton Fils. De cet amour qui nous accompagne et qui nous accompagnera jusqu'au bout de nos vies, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au moment où nous pourrons enfin te voir et être comme toi. De cet amour qui ne dépend pas de nous, de nos réussites ou de nos échecs, mais uniquement de toi et de ta personne. Qu'il puisse être encore plus réel, que nous puissions le comprendre, qu'il puisse remplir nos vies, imprégner chacune de nos pensées, de nos actes, pour que nous puissions avancer dans les bons comme dans les mauvais moments, avec cette certitude que tu es toujours, toujours avec nous et pour nous, Seigneur Dieu. Amen.